la répression en cours est une répression sanglante, systématique, qui passe pour le moment en dessous des radars de la communauté internationale et que les autorités burundaises font tout pour tenter d'échapper évidemment à toute sanction ou à toute action de la communauté internationale, ce qui fait que les crimes se poursuivent aujourd'hui de façon systématique. Si la FIDH et la Ligue ITK parlent aujourd'hui d'un risque de génocide au Burundi, comme les Nations Unies l'ont fait il y a un mois.
Mais est-ce que vous avez des éléments justement pour étayer vos accusations ?
Absolument. Aujourd'hui, on a réussi à analyser la situation du régime. Dans le rapport, on présente notamment un organigramme, les crimes commis, l'intentionnalité qui est commise. On ne dit pas qu'il y a un génocide, on dit qu'il y a les éléments qui sont dispositionnés pour que peut-être demain, il y a un risque en tout cas qu'un génocide soit commis au Burundi, pour la bonne et simple raison aussi que déjà d'autres génocides ont été commis au Burundi dans l'histoire, en 1972 contre les élites Hutus, en 1993 pendant la guerre civile, plus de 300 000 personnes ont trouvé la mort dans un pays de 10 millions d'habitants, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, il y a des organes sécuritaires. Il y a une propagande du régime en place, un parti unique pratiquement au Burundi, un régime totalitaire qui est en place.
Oui, vous parlez notamment du discours ou bien des discours haineux de certains responsables politiques, dont le président du Sénat, Réverien Ndikuriyo.
Absolument. L'analyse que l'on fait, c'est que jusqu'au 13 mai 2015, qui est la tentative de coup d'État contre le régime, le régime voulait se maintenir au pouvoir par tous les moyens, mais plutôt dans une lutte politique. Voyant que la contestation était non pas ethnique, c'est-à-dire que ce n'est pas les Tutsis qui manifestaient, mais c'est Tutsis ou tout mélangé, c'était une contestation de nature politique contre le 13e mandat de Nkurunziza, du président en place, et la tentative de coup d'État qui a été faite par l'un des compagnons de route du président Nkurunziza, donc
un Hutu. Godefroy Niyombare.
Niyombare, qui est Hutu, qui s'était opposé au 13e mandat dans une note interne. Tout ça démontre évidemment que le conflit n'est pas ethnique. Et donc du coup, le régime, pour se trouver un ennemi, a appuyé sur le bouton ethnicisme et a rendu cette crise ethnique pour se trouver un ennemi commun, pour justifier son idéologie d'instrumentalisation de l'histoire, c'est-à-dire qu'en gros, les Hutus ont été génocidés en 1972 et donc aujourd'hui, il faut prévenir d'un nouveau génocide Hutu, soi-disant, et donc il faut agir de façon préventive. Et donc aujourd'hui, ils essayent de trouver un ennemi qui est en fait l'opposition, qu'elle soit Hutu ou Tutsi, mais il est plus facile de désigner les Tutsis comme cette cible en disant que cette minorité qui a dirigé le pays après l'indépendance par des dictatures militaires putschistes veulent revenir au pouvoir et menacent le pouvoir qui serait, lui, démocratique parce que majoritairement Hutu, etc. etc., etc. Cette rhétorique est mise en place aujourd'hui et elle est mise en œuvre par les milices du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Elle est mise en place également par les partisans du pouvoir. Un dernier élément qui est très important de cette ethnicisation de la crise, la décision récente du président du Sénat, qui est connu pour être un turéfère du régime, de demander un recensement ethnique des services de l'État, à savoir les entreprises publiques, les services étatiques, les administrations, etc., etc., soi-disant pour se conformer aux accords d'Arusha, mais évidemment, les accords d'Arusha n'ont jamais prévu une telle application d'un critère ethnique à ce niveau de l'administration. C'était essentiellement les postes politiques, par exemple l'Assemblée nationale, le gouvernement, l'armée, etc.
Ouais. Et dans le rapport, vous écriviez ceci, le régime du président Nkurunziza s'est lancé dans une fuite en avant criminelle pour conserver le pouvoir par tous les moyens, y compris selon vous en s'appuyant sur les Imbonerakure.
Bien sûr, les Imbonerakure sont aujourd'hui les maîtres d'œuvre et la main d'œuvre du régime pour les basses besognes. Ils ont été en partie intégrés dans la police, en partie intégrés dans l'armée. Ils sont aussi dans les rues, dans les villages, sur les collines. Ils arrêtent, ils torturent, ils exécutent, ils intimident et ils relaient les mots d'ordre du parti au pouvoir et du régime. Et donc c'est véritablement la cheville ouvrière criminelle du régime qui ne l'est pas moins.
Oui, et qu'est-ce que la FIDH et son partenaire, la Ligue ITK, préconisent pour que cette situation cesse?
Très honnêtement, les préconisations que l'on fait, elles sont parce qu'il faut bien faire des préconisations et on ne peut pas laisser le Burundi s'enfoncer éternellement dans la crise et dans ce qu'on répète, un risque de potentiel de génocide. Ce qu'on demande, c'est que à un problème politique, il faut y répondre de façon politique. Et donc il faut relancer le dialogue politique, il faut remettre les acteurs à la table des négociations. Aujourd'hui, celui qui bloque ces négociations politiques sont le pouvoir. Et donc il faut trouver des moyens pour inciter ou forcer le pouvoir à revenir à la table des négociations et pouvoir discuter de l'avenir du pays, non pas de façon unilatérale, mais de façon multilatérale. Donc d'abord, un, relance du dialogue politique. Deux, la nature des crimes qui sont commis au Burundi sont de nature, selon nous, à ce que la Cour pénale internationale ouvre une enquête et juge les principaux responsables.
Oui.
Malgré le conflit qui existe aujourd'hui entre la Cour pénale internationale, enfin devrais-je dire le conflit qui existe aujourd'hui entre certains pays africains et la Cour pénale internationale, dont le Burundi qui s'en est retiré, enfin a annoncé son retrait il y a moins d'un mois, il n'en demeure pas moins que ce retrait du Burundi est une preuve d'aveu de culpabilité et donc il faut évidemment que la Cour pénale internationale se saisisse de la situation au Burundi et ouvre une enquête impartiale. Troisièmement, les crimes qui sont commis poussent à une urgence, la protection des civils, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, puisque il n'y a pas que les opposants qui sont victimes d'exactions. Le régime élimine aussi, même dans son propre camp, ceux qui ne sont plus d'accord ou ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc il faut protéger tous les civils, quels qu'ils soient, quelque parti politique qu'ils soient, quelque ethnique qu'ils soient, etc. Et donc la protection des civils nécessite une prise en main de la situation par l'Union africaine, mais par les Nations unies aussi, si l'Union africaine est défaillante comme elle l'est actuellement. Et donc il faut envoyer des témoins, il faut envoyer des gens qui
protègent. Une mission d'interposition de la paix. Hein.
Si ça doit prendre cette forme-là, oui, on n'en est pas fan, mais en tout cas, il faut respecter le droit international et puis essayer par un moyen ou par un autre de limiter les crimes et d'arrêter les crimes et de protéger les civils. Et donc, seule une mission internationale aujourd'hui est dans la boîte à outils. Si on trouve une autre solution, nous serons d'accord avec celle-ci, mais pour l'instant, malheureusement, il n'y en a pas d'autre.
Oui, le pouvoir burundais a toujours répondu que la FIDH fait abstraction hein, des violences et des crimes commis par les opposants. Est-ce que, au cours de votre enquête, vous avez noté également des crimes commis par des opposants?
Absolument, parce que nous sommes indépendants, nous ne sommes pas orientés politiquement, et donc il y a une section dans le rapport qui rappelle que des groupes armés d'opposition se sont constitués, que ces derniers ont lancé des campagnes d'assassinat plus ou moins ciblées d'ailleurs, puisqu'il y a eu aussi des jets de grenades dans la ville qui ont touché des civils, et que ces actions peuvent constituer également des crimes de guerre ou des crimes graves qui doivent d'abord, un, cesser, et deux, qui alimentent en général la violence, puisque le régime a prétexté ces attaques pour mener des opérations de représailles et de répression. Et trois, ce sont des actions qui ne contribuent pas à la paix et sont condamnables. Donc nous condamnons également les actions et les exactions commises par les groupes armés qui prouvent totalement notre indépendance et notre neutralité par rapport aux uns et aux autres. Par contre, la vérité m'oblige aussi à dire qu'aujourd'hui, plus de 95% des exactions sont commises par le régime. Et donc, même si les crimes des groupes armés sont condamnables, il faut bien prendre considérer que c'est une minorité des crimes qui sont commis au Burundi.
Oui, Bujumbura a toujours accusé son voisin rwandais hein, d'attiser ces violences sur son sol. Est-ce que, Florent Gel, vous avez des éléments qui étaient un peu ces accusations?
On a des allégations comme quoi effectivement le Rwanda a soutenu, a armé, a entraîné certains groupes armés qui auraient eu des recrutements forcés notamment dans des camps. Il a été difficile de confirmer ces informations, mais elles semblent crédibles. Le Rwanda n'a pas toujours joué un rôle stabilisateur et un rôle positif dans la région. On pense à son implication dans les crimes commis à l'est du Congo et on se rend compte que le Rwanda joue un rôle régional difficile et compliqué et parfois même condamnable. Donc effectivement, le Rwanda est un des éléments du puzzle burundais également et on appelle les autorités rwandaises, tout comme les autorités burundaises, à calmer le jeu pour éviter une déflagration régionale.
Ouais, dernière question, Florent Gel. On sait que la Ligue ITK, qui est partenaire à la FIDH, hein, a subi récemment les foudres du pouvoir burundais. Est-ce que vous avez engagé des discussions avec Bujumbura pour que cette situation se normalise?
Bien évidemment. D'abord, on a demandé, lors de notre mission en mars au Burundi, des éclaircissements sur la disparition de Marie-Claudette Kouizera, qui était la trésorière de la Ligue ITK et qui a disparu le 10 décembre 2015 et qui n'a à ce jour pas été retrouvée. Donc d'abord, on a demandé des explications. Les autorités burundaises ont été dans l'incapacité de nous fournir une clarification sur ce qui lui était arrivé. Deuxièmement, effectivement, la Ligue ITK est une organisation indépendante de défense des droits de l'homme qui est très reconnue au Burundi, qui a fait ses preuves à travers les différents conflits qu'ont traversé le Burundi dans le temps, et donc qui a démontré son indépendance. Elle a été durement attaquée, ses comptes ont été à un moment gelés, elle a fait l'objet récemment d'une décision de suspension également, mais en sous-main, le régime tente d'amadouer le président ou certains de ses membres en leur disant « si vous revenez, on va pouvoir normaliser cette situation, mais ça implique... évidemment d'être d'accord avec le régime. Donc la Ligue ITK, jusqu'à présent, a choisi son indépendance, a choisi de dire la réalité des crimes qui sont commis, et du coup, un grand nombre de leurs membres sont soit en exil, soit aujourd'hui cachés, ou vivent en clandestinité, ou vivent dans la peur. À ceux qui peuvent nous entendre, on leur transmet évidemment notre solidarité et le fait qu'ils ne sont pas seuls dans la dénonciation des crimes et la tentative de trouver des solutions pacifiques pour la situation malheureuse que vit le Burundi aujourd'hui.